Bonjour à toutes et à tous, c'est Showtime qui prend l'antenne, petits aléas. Allez, c'est parti sans plus tarder, Showtime générique, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Showtime, votre émission sur le partage de la passion du cinéma et de la pop culture sur les ondes de Radio Larzac. Showtime, c'est une émission qui dure depuis 11 ans déjà et dont voici le programme du 4e épisode. Pour cet épisode du mois de janvier, bonne année, je vais vous présenter ce qui m'aura marqué depuis la précédente émission. Mais pas que, il y aura aussi une suggestion et un avis. Bref, tout un programme pour ce nouvel épisode de Showtime. Showtime, saison 11, épisode 4, on y va. Ouh ! Quelle introduction pour bien démarrer l'année, et justement, pour bien démarrer l'année, que de mieux que vous la souhaiter. Bonne année, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Beaucoup de choses au niveau cinéma, pop culture, culture. On va essayer de s'amuser tous ensemble, encore une fois, jusqu'au mois de juin. On va voir si on continue peut-être un petit peu plus loin. À voir, à méditer. Ceci étant dit, c'est parti. Et pour le coup, je n'ai pas retenu vraiment d'actualité qui a pu me marquer tout du long du mois passé. Donc, je vous propose de revenir sur quelques films que j'ai pu visionner. Alors, pour commencer, nous pouvons parler d'Aquaman et le Royaume perdu. C'est le 15e. 16e film, hein, si on compte la Zack Snyder Justice League. Et donc oui, 15e et dernier film du DC Extended Universe, l'univers partagé de DC Comics, censé concurrencer le mastodonte qu'est le Marvel Cinematic Universe. Ça aura connu des échecs et des succès, mais beaucoup d'échecs, surtout tous les derniers films. Je pourrais revenir sur le cas The Flash, qui, tout comme Aquaman et le Royaume perdu, est une créature de Frankenstein. Les remous en interne chez Warner, qui ont amené à la création de l'entité DC Studio, qui supervisera à l'avenir les films du futur DC Universe, cette création, ces remous, ça se fait ressentir sur la narration du film d'Aquaman 2, donc, car sa construction et donc son enchaînement, sans être déplaisant, ça fait que le film de James Wan est tout de même en deçà de son aîné. Certaines coupures se font ressentir, comme certains reshoots. Le reshoot, c'est un procédé qui vise à retourner certaines scènes afin de les rendre plus pertinentes et agréables aux yeux du public. Ces reshoots, ces tournages de nouvelles scènes, ça se fait ressentir. Et c'est vraiment dommage, car le côté buddy movie, escapade en duo ou accompagné du film entre Arthur Curry et son frère Orm, et le développement de l'univers Aquaman avec les différents royaumes, ça aurait pu permettre de le faire grandir, d'en faire un film détonnant, surtout que Aquaman arrive justement à vivre de lui-même dans son propre microcosme sans avoir à jouer du fanservice des univers étendus super-héroïques. À cela, il manque quand même bien 20 minutes pour en développer certains aspects. Heureusement, la thématique familiale amenée par les superbes performances de Jason Momoa, ici en roue libre, et Patrick Wilson, sublimé comme jamais, porte un film en lequel personne ne croyait. En bref, ça passe, mais ça sera quand même avec plaisir que je viendrai à le revisionner. Pas comme certains films de super-héros de ces dernières années. Allez, Au revoir le DCU et vive le DCU.
Hi baby boy, talking to the fishies. You and me, son, we're different, we're special. We're connected to the land and the sea. I can't wait to introduce you to all the majestic creatures on our planet and show you how awesome this world can be. Yeah, you and me.
I'm gonna kill Aquaman. Even if I have to make a deal with the devil to do it.
Free me from my prison, and all my power will be yours.
The key to this prison is the royal bloodline itself.
He needs us. We're the end of the bloodline.
No, we're not.
Yeah!
Manta. Took Junior.
He must be stopped.
I'm coming for you. He'll destroy everything he holds dear.
You want blood? Come get it!
Aquaman and the Lost Kingdom.
J'ai aussi vu, durant le mois passé, le film Feedback. Je cherchais justement un petit film qui tourne autour de la radio, qui se passe dans une radio. Il y en a certains, il y en a quelques-uns. J'essayais même de voir si j'arrivais à trouver hein, le drama, la série asiatique, adaptée asiatique, du manga Born to be on Air, avec une fille qui prend les rênes à la radio. Et j'ai pas réussi à trouver. Du coup, je me suis tourné vers Feedback, un film du genre épouvante, horreur, thriller de Pedro C. Alonso, sorti le 2 février 2020 en VOD. J'ai pu le visionner sur la plateforme de SVOD, première vidéo. Et qu'est-ce qui a pu m'amener à lancer dans l'aventure Feedback ? Bon, je vous l'ai déjà dit, ça se passe dans une radio. Et que de mieux que de vous en parler justement à la radio. Bon, j'espère ne pas être pris en otage hein, par des harceleurs en plein direct comme le protagoniste du film. Lui, il anime une émission de radio où il apprécie mettre à jour les non-dit, mettre en lumière la vérité. Et il va justement devoir révéler une vérité autour d'une affaire passée. Mais au détriment de quelle vérité ? Franchement, ça s'apprécie. C'est bien rythmé et ça amène un huis clos dans une station radio en jouant d'environnements sonores différents. Son étouffé, ténu, assourdissant. Et j'en passe. Le seul aspect qui me laisse sur ma faim, c'est la fin. Alors, soit on en a saisi tous les aspects, soit ça fait beaucoup spéculer. En tout cas, la vérité vraiment est au cœur du récit. C'est l'une des thématiques principales du film. La vérité tout du long de l'histoire, comment elle peut être perçue, surtout véhiculée à travers des canaux différents d'informations. Bref, je ne demande que ça, d'en parler. Alors n'hésitez pas, lancez Feedback. Ça sera avec plaisir de débattre avec vous sur le sujet.
Ici la police, je vous écoute.
Des individus essaient de me tuer. Ils viennent de tuer deux personnes.
Calmez-vous, monsieur. L'assaillant est-il encore avec vous ?
Ce n'est pas pareil, c'est hallucinant. Pourquoi tu m'as jamais emmené ici ?
Tu y as ce type et ta connerie.
J'ai pas envie de parler de ça maintenant.
Antoine, qu'est-ce qui se passe ? Allume tout de suite la lumière et ouvre cette putain de porte !
Pile à l'heure.
Anthony !
Premièrement, il faut que tu continues l'émission. Tu vas suivre nos instructions et tu ne vas poser aucune question. Troisièmement, si pour une raison quelconque, la diffusion est interrompue, tu le paieras cher.
C'est quoi ce bordel ? Deux hommes ont attaqué le studio et ils ont pris Claire et Anthony en otage. Tu racontes ce qui s'est passé dans la chambre 221 en direct.
T'es à l'antenne.
Qu'est-ce qui t'est arrivé ?
Dis-lui d'enlever ces sales pattes de ma fille !
Je connais les gars dans ton genre. Tu veux que les femmes soient à ton service. Qu'elles n'ouvrent jamais la bouche.
Andrew, qu'est-ce que tu as fait à ces filles dans la chambre 221?
Debout, Dolan, on n'a pas encore fini.
C'était censé être simple, vraiment très simple. Non!
Arrête de me chauffer, Nagatoro. C'est un shonen manga, un manga pour jeunes garçons de Nanashi, aussi connu sous le pseudonyme de 774. On va dire ça comme ça. C'est toujours en cours de parution au Japon, c'est vous dire, ça en est quand même à son 18e volume. En France, le manga est édité depuis le 12 mars 2021 par les éditions Noebe Graphix. Noebe Graphix ? Noebe Graphix ? Je ne connaissais absolument pas cette maison d'édition et je découvre avec ce manga et les éléments que je vous rapporte avec cette émission. C'est pendant les fêtes, en me perdant sur certaines chaînes reculées de la télévision française, que j'ai pu voir à de nombreuses reprises un spot TV au sujet du manga Arrête de me chauffer, Nagatoro. À force, ça a commencé à m'interpeller. Puis, je me suis rappelé avoir aperçu sur une plateforme de SVOD spécialisée dans l'animation japonaise, l'adaptation animée du dit manga. Je me suis donc lancé dans son visionnage pour y découvrir l'histoire de Nagatoro qui prend un malin plaisir à taquiner son senpai, son aîné, un élève dans une classe plus avancée qu'elle. Certaines situations, gags, peuvent prêter à sourire, mais il y a quand même une certaine gêne qui est là, car c'est ni plus ni moins que du harcèlement. Et ça a joué dans la réception, parfois mitigée, de ce que j'ai pu lire du manga. En plus, c'est vous dire, même Wikipédia classifie la thématique principale du manga comme étant le harcèlement. Je voulais vous en parler plus longuement, notamment développer sur le fait qu'une des thématiques principales de cette comédie romantique soit le harcèlement. Mais le temps m'a manqué. J'y reviendrai très certainement lorsque j'aurai fini le visionnage de la seconde saison. Heureusement, l'histoire et les personnages évoluent un peu. En tout cas, si vous avez lu ce manga et que vous voulez et que vous désirez en parler, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'écrivant sur mes réseaux sociaux chat-du-8-fouineur ou encore aux adresses suivantes showtime.radiolarzac@gmail.com ou oneroy.studio@outlook.com. Alors, je manque à tous mes devoirs parce que j'ai pris une musique, mais j'ai oublié de noter son interprète. Déjà, la musique s'appelle Easy Love, mais ensuite, savoir qui la chante, Je m'en excuse tout à fait, je ne l'ai pas noté. J'essaie de faire une petite recherche rapide en direct comme ça. Je vous garantis pas les choses, auquel cas hein, je ferai en sorte de vous exprimer les éléments d'une quelconque manière. Oh ben si, je suis trop fort. Sumire Uesaka, Easy Love de Sumire Uesaka. Vous venez d'entendre cette musique, la version générique donc de Arrête de me chauffer Nagatoro, le premier générique donc de cette série d'animation japonaise un petit peu particulière. Ben tiens, on va parler série d'animation japonaise. Ben, j'avais déjà dû vous en parler de Kara no Kyokai, The Garden of Sinners, ben, dans Showtime, lors d'une des premières saisons de l'émission, je pense. Et je tenais à vous en reparler. C'est une série de films d'animation de studio Ufotable qui adapte une série de light novels du même nom. Des light novels au Japon, c'est des romans un petit peu illustrés avec des dessins hein, qui viennent agrémenter le récit. Et voici justement le synopsis du premier film de Kara no Kyokai, The Garden of Sinners, premier film titré Thanatos. Une série de suicides est le sujet de toutes les attentions et questions des médias sociaux, des médias locaux. Comme quoi, il y a trop de médias sociaux, ma langue a fourché. En effet, ces suicides ont tous un point commun. Ceux qui se sont suicidés se sont tous jetés du toit du même immeuble, mais la police patauge. Pendant ces événements, Kokuto Mikiya est tombé dans le coma et Shiki Ryogi commence alors à s'intéresser personnellement à cette affaire. Cependant, cette affaire est sujette à des rumeurs prétendant qu'il y aurait un fantôme sur le toit de cet immeuble. Eh ben, c'est gai tout ça. Et l'ambiance du film est pesante, mais pesante. C'est beau, c'est prenant, c'est entraînant, mais que c'est pesant. Puis l'histoire, oh, je me souvenais pas qu'elle était aussi complexe. Il faut dire que la narration des différents films est particulière. Cet opus se passe en septembre 1998, alors que le second se passe en 1995. Certains des autres films peuvent aussi s'imbriquer entre ces dates, voire même se projeter dans le futur. Bref, il ne faut pas s'attarder face à la complexité du premier film. Ce serait passer à côté d'une œuvre saisissante, un thriller un petit peu surnaturel. Et donc, une œuvre saisissante et intemporelle de l'animation japonaise. Pour terminer, j'ai visionné American Psycho 2. Waouh, alors celui-là, je retrousse les manches. Attention, ça va cogner. C'est la suite, spin-off, c'est un épisode dérivé, donc du génial American Psycho de Mary Aron. Vraiment, j'adore American Psycho et je prends toujours autant de plaisir à le regarder. Après une mauvaise journée de boulot, il fait son petit effet. Vraiment, Christian Bale, je t'aime. Et quand on se retrouve face à ce American Psycho 2 de Morgan J. Freeman, avec sur la miniature du film sur les plateformes de SVOD, une Mila Kunis qui fait la moue en tenant une faux, curiosité malsaine oblige, hein, on lance le film. Se déroulant près de 15 ans après les événements d'American Psycho, c'est l'histoire du seul survivant de Patrick Bateman qui devient assistant d'enseignement d'un professeur alors même qu'elle développe ses propres obsessions meurtrières, détruisant quiconque sur son chemin. Pouah, heureusement, ça ne dure que 1h28 et dès le début, je me suis posé la question. Je continue ou j'arrête ? Non mais, Patrick Bateman qui succombe aussi bêtement face à une gamine. Puis l'histoire ensuite, comme le synopsis le présente et comme ça vient à se comprendre rapidement, c'est American Psycho sur un campus d'université. Les similitudes entre les deux histoires sont là. On suit un personnage qui cherche à évoluer d'une certaine manière et qui inverse la concurrence pour justement à atteindre son objectif. Donc ici, nous suivons une tueuse en série et non un tueur en série. Et c'est dommage, car il aurait pu y avoir quelque chose à faire en adoptant un point de vue féminin. Et encore, aurait-il fallu ne pas vouloir en faire un banal slasher teen movie, un film pour ados avec un tueur en série à la Scream ou Souviens-toi l'été dernier ? Vraiment, le film fait tellement saut 2000. Bon, ok, il date de 2002. Je pense qu'il a été lancé pour surfer sur le succès du premier opus qui date des années 2000. Et l'aspect 2000, justement, se reconnaît à l'image et aux musiques. Et ces musiques, non. Et je vous parle même pas de la BO de Norman Ornstein. Sérieux, c'est quoi cette toute petite musique entêtante, limite tout droit sortie d'une comédie qui sort du contexte thriller du film par moment ? Bref, American Psycho 2, ça se regarde, mais je ne pense pas le visionner ou le revisionner comme j'ai pu le faire avec le premier American Psycho. Vraiment, une fois, mais pas deux.
Vous avez déjà consulté un psychiatre ?
Non, comment ça se passe ?
Nous aurons des conversations hebdomadaires et ensemble nous poserons les questions qui vous aideront à apporter les bonnes réponses.
J'avais seulement 12 ans et je n'allais pas laisser Patrick Bateman foutre ma vie en l'air.
Et si on s'arrêtait là ?
American Psycho continue.
Cette fille n'a aucun sens des réalités.
Plus furieux. Plus mortel. Plus sexy que jamais.
Avec des rainures pour qu'elle prenne son pied.
Elle est plus obsédée que Dahmer, plus calculatrice que Bundy et certainement plus anonyme que Batman. Quoi qu'il en soit, elle a tué 8 personnes. 8 personnes, jusqu'à maintenant.
Paid the price.
will never leave again. I'm by your side. I was calling you. Did you hear me? I lost my way. Lost my way.
C'était Wide Awake de Alan Wake et James. Oui, je suis encore sur du Alan Wake, oui, j'arrête pas, hein, vraiment, c'est encore et toujours mon jeu du moment, puisque je suis actuellement en train de faire, ben, comme j'ai pu vous l'exposer lors de la précédente émission, ben, la version finale, la nouvelle partie qui va me permettre de découvrir ben, une alternative, une nouvelle fin aux aventures de notre écrivain maudit. Et justement... Ça me fait penser que ça a été la période des fêtes. Peut-être que vous avez été gâtés. Et justement, on va en parler dans les suggestions.
Les suggestions.
Allez, dites-moi tout. Est-ce que vous avez été gâtés pour ces fêtes?
Moi, oui.
Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'on avait plus que bien pensé à moi en m'offrant le livre « L'Apocalypse selon Godzilla, le Japon et ses monstres » de Nicolas Denesho et Thomas Giorgetti. Quoi de mieux pour bien se préparer à fêter les 70 ans du roi des monstres dont je suis un fan et qui a fait ses débuts en 1954. La première vision du Godzilla de 1954, réalisée par Ichiro Honda et Eiji Tsuburaya, s'avère souvent déroutante. Bien loin de l'image pop qu'il véhicule aujourd'hui, le roi des monstres incarnait, à ses débuts, la somme de toutes les peurs du Japon. La série est l'une des licences les plus prolifiques de l'histoire du cinéma. De 1954 à nos jours, chaque film a porté les stigmates de son époque, faisant de Godzilla un précieux témoin historique du mal-être de son pays d'adoption. De témoin apocalyptique à icône pop destinée aux plus jeunes, le monstre a évolué au fil des tendances, s'aventurant dans divers genres cinématographiques, mais il n'en a pas moins gardé un sous-texte éminemment politique et social. Dans l'Apocalypse selon Godzilla, le Japon et ses monstres, Nicolas Denesho et Thomas Giorgetti décortiquent cette franchise qui s'est réinventée à de nombreuses reprises. Cet ouvrage analytique, qui s'intéresse tant aux coulisses des longs métrages qu'aux thématiques sociétales liées à l'histoire du Japon, ravira les néophytes comme les fans les plus exigeants. Alors, c'est un livre vraiment très intéressant et qui a un découpage tout aussi intéressant puisqu'il est en plusieurs parties. Au niveau du sommaire, on trouve un avant-propos sur Godzilla, le lanceur d'alerte. Il y a une partie 1 sur Japon, terre outragée, partie 2, Godzilla, partie 3, l'ère Showa, partie 4, l'ère Heisei, partie 5, l'ère Millennium, partie 6, le Monsterverse, partie 7, l'ère Reiwa. Et ensuite, on a conclusion et remerciements. Mais ce découvrage en partie selon les différentes ères de Godzilla, c'est très intéressant parce que ça permet justement de découvrir le roi des monstres selon les époques. Et les ères tiennent souvent aux empereurs, au Japon. Et par contre, l'ère Millennium, je pense que c'est plus relatif à l'ère 2000. Enfin bref, ça pourrait être intéressant de mieux en parler, de ces notions d'air qui font le Japon. Et bon, après, je vais être franc, j'en ai pas encore terminé la lecture. Mais moi, je suis tellement happé par ce bouquin que je voulais vous en parler. Car, comme vous l'avez compris, gloire aux monstres. Gloire au roi des monstres, pardon. Vive le tokusatsu, le cinéma des effets spéciaux japonais. Et vive le kaiju Eiga, les films de monstres. Ça, c'est de 1. Et de 2, en amateur du Japon, certaines pages embrossent un portrait glaçant. Notamment en revenant sur les dramatiques événements que furent les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Vraiment, ces premières pages que l'on trouve dans l'avant-propos, rien que d'y repenser, ça donne des frissons. On croit lire quelque chose autour d'une séquence de destruction de Godzilla, mais non, on nous dépeint justement quelqu'un qui assiste, qui survit à ces bombardements et qui se retrouve dans un paysage désolé. Enfin, voilà, c'est dérangeant, mais fascinant. Quand j'en aurai fini la lecture, je ne manquerai vraiment pas de vous en parler. D'ici là, espérons que Shin Godzilla ou Godzilla Minus One puisse nous arriver dans nos salles de cinéma préférées. Je vous parle des cinémas de Meiyo. C'était une musique tirée de la bande originale de Godzilla Minus One. C'était la première Godzilla suite de Naoki Sato. Vraiment, il me tarde de le voir ce film. Il a des critiques dingues, que ce soit du côté spectateur que de côté critique. Hein. Plus de 4 étoiles sur 5 hein, sur un site qui commence par Halo et qui finit par Ciné. Vraiment, vraiment. Oh, je demande que ça à le voir. En plus, là, il ressort prochainement au cinéma sur une fenêtre d'une quinzaine de jours. Est-ce qu'on va pouvoir le visionner par chez nous? Vraiment, je croise les doigts. Ou sinon, on trouvera bien une manière ou une autre de pouvoir le visionner. Maintenant, je vous propose que l'on passe à l'avis du mois. It's showtime. Et pour cet avis du mois, je vais vous parler du film Tempura. C'est un film japonais de son titre VO Hold Me Back. Je lis ça justement sur le fameux site qui commence par Halo et qui finit par Ciné. Et c'est un film donc de Akiko Oku. Il est sorti le 20 juillet 2022 dans les salles obscures françaises et le 22 novembre dans les bacs. Groovy. Dans le rôle principal, nous redécouvrons Rena Nonen. Merci Wikipédia. C'est une actrice, mannequin, chanteuse et réalisatrice japonaise. Ça en fait des casquettes. La réalisatrice Akiko Oku, elle, est une réalisatrice avec plusieurs films à son actif. Et à ce que j'ai cru comprendre hein, grâce au visionnage du Making of, et ça se confirme avec quelques petites choses que j'ai pu trouver sur l'internet, le tournage a été perturbé par la crise sanitaire de la Covid. Je trouve que ça ajoute un certain charme à ce film assez atypique. On est bien loin de ce que je vais vous lire. Allez, synopsis. J'adore ce genre de moment où je vous lis les petites catchphrases hein, tirées de certaines critiques. Une comédie légère et profonde, pleine de poésie et de drôlerie. 4 étoiles, France Info. Un délicieux petit voyage express. 5 étoiles, Femme Actuelle. Tempura séduit de bout en bout. 4 étoiles, Le Parisien. Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au cœur d'un Tokyo trop grand pour elle, elle se consacre avec passion à des recettes de cuisine qu'elle peaufine dans son petit appartement. En célibataire épanouie, elle se fixe chaque jour de nouveaux défis, jusqu'à celui inédit d'inviter un garçon à dîner. Par le prisme de la cuisine, la réalisatrice Akiko Oku dresse un portrait de femme particulièrement moderne et rafraîchissant, en prise directe avec la société japonaise.
ね。明日の日曜は何の一人様にチャレンジしようかな。一人会水浴でも行こうかな。すみません。やはり、ご迷惑でなければ、お宅に取りに行くってなら。いや、自分で寿司か。美味しかったらいいんだけど。 何なんだろう、毎度毎度この関係。店に入る瞬間はドキドキしたけど、拝見お一人様焼肉の人多いみたい。お一人様の総本山だよね。二人海外旅行は。多田くんが愛しいけど、距離の取り方がわかんないよ。今回は大丈夫だよ。
Encore un super samedi en célibataire? Pas vrai? Quel challenge de célibataire pourrais-je choisir aujourd'hui? Et si j'allais seul à la plage? Splash! Excusez-moi, Si ça ne vous dérange pas, puis-je venir goûter à vos plats ?
C'est un peu culotté.
J'espère que ça sera bon. C'est quoi cette relation ? Au début, j'étais nerveuse, mais si tout à fait possible de manger des yakiniku en solo. Et maintenant, le défi ultime, voyager seul à l'étranger. Tada me plaît, mais je ne sais pas comment faire. Cette fois, tout se passera bien.
C'est sûr.
Qu'est-ce que c'est ? Tu peux toucher si tu veux. C'est drôlement bien fait. Ce sont les mots échangés lors de la bande-annonce que je viens de vous passer. La barrière de la langue est là. Mais je trouvais dommage de ne pas vous la présenter. Et en la réécoutant, en la revoyant, en vous la relisant, je trouve qu'elle est drôlement représentative de ce qu'est le film d'Akiko Oku. Un long métrage qui est une adaptation du roman de Risa Wataya. C'est donc à une comédie légère et profonde, pleine de poésie et de drôlerie, que l'on nous dit avoir à faire. Mais, au visionnage du film, on se rend rapidement compte qu'il va en être tout autre. Et ça peut expliquer la catégorie drame associée au film sur le site qui commence par Halo et qui finit par Séné. Je ne pensais me détendre avec une histoire légère. Mais rapidement, on se rend compte que notre héroïne, Mitsuko, souffre d'une certaine solitude. La trentenaire est célibataire. Et pour sortir de sa routine et se donner les moyens de pourquoi pas rencontrer quelqu'un, elle se donne des défis. Genre, je vais faire un cours de cuisine. Je vais voyager à l'étranger. Et j'en passe. Justement, pour se donner les moyens de tout cela, elle est soutenue par sa voix intérieure. Ah ! Lorsqu'elle intervient pour la première fois, ça t'appelle. On se dit, elle est avec quelqu'un ou bien... Eh bien, ça se confirme que... Non, elle est justement en train de parler avec elle-même, ce qui renforce le côté dramatique du personnage. Ah ! À ce point, la dépression ne doit pas être bien loin. Surtout que le cadre du film joue de la culture japonaise. Bon, je n'en suis pas un expert, mais quand on se renseigne sur le sujet, faut dire qu'on entrevoit le poids du célibat quand on est trentenaire japonais. Le poids de la solitude, même si on a un travail. Elle sort peu, notre petite Mitsuko, et ses proches se comptent sur les doigts d'une main. La solitude, tiens, parlons-en. Car nos différents protagonistes en souffrent tous dans un sens, que ce soit seul ou en couple. Et ça ressort d'autant plus lorsque Mitsuko est amenée à voyager et à se rendre en Italie. Ah, l'Italie ! Outre le cadre qui va amener Mitsuko à se confronter à son amie Satsuki, qui, elle, a une petite vie, mais qui se sent tout aussi seule, car loin de son pays, ça permet de mettre dans un sens la magie du cinéma à la japonaise. Tout du long de cette séquence, en Italie, je me suis posé la question du vrai ou faux. Au fil de mes recherches, j'ai compris que oui, c'était faux. Pandémie oblige, les scènes en Italie ont dû être tournées au Japon. En le sachant, ça ajoute un quelque chose à l'image du film, qui est sublimé et ponctué de détails ayant leur importance. Une lumière qui se baisse et qui augmente au rythme de l'action de la scène. Des katakana et hiragana, caractères d'écriture japonais, qui illustrent les pensées de notre héroïne, ou la musicalité d'un moment. Et j'en passe. Vraiment, il faut être attentif tout du long. Le côté version originale sous-titrée français y aide notamment. La musique de Masaaki Takano n'est pas en reste et permet justement d'apporter une certaine légèreté au film d'Akiko Oku. Ça fait du bien, parce qu'encore une fois, Tempura n'est pas aussi comique qu'il y paraît. Enfin, si. Lorsque certains moments partent dans des délires bien la japonaise, là, on peut venir à sourire.
D'accord, et restons zen.
En bref donc, Tempura, de son titre VO Hold Me Back, d'Akiko Oku, comme vous avez pu le comprendre, n'est pas une comédie légère et profonde, pleine de poésie et de drôlerie. Une certaine gravité ressort de ses propos, notamment lorsque les thématiques de la solitude et des choix de vie sont abordées. Que ce soit dans le comique ou le dramatique, le film d'Akiko Oku sait nous transporter grâce aux interprétations de ses différents acteurs. En disant cela, je pense à notre héroïne Mitsuko, interprétée par Rena Nonen, qui saura nous faire sourire, comme nous inquiéter pour son bien-être. Kento Hayashi, dans son rôle de Tada, bien que mignon sur certains aspects, saura nous faire grimacer car amenant par moments un certain malaise selon les actions et situations. Ai Hashimoto et sa Satsuki, quant à elle, illustrent parfaitement la confrontation des chemins de vie avec Mitsuko dans des scènes touchantes, pleines de sincérité. Bon, j'avoue en faire des caisses, mais ça va, le film est quand même tout de même assez léger. Il permet de décompresser après une rude journée. Donc, si vous avez besoin de tout ça, d'une comédie légère et profonde, pleine de poésie et de drôlerie, j'y tiens vraiment à cette phrase, et que vous êtes amateur du Japon, vraiment, je ne peux que vous recommander Tempura d'Akiko Oku.
More.
Kimiwa Tenenshoku de Eiichi Otaki, une musique qu'on entend à plusieurs reprises dans Tempura Hold Me Back de son titre VO et qui intervient notamment à plusieurs reprises aussi dans le long métrage, notamment dans son générique de fin. Bon, avec tout ça, moi, il faudrait peut-être que je me jette Perfect Days de Wim Wenders. Voir si ça retransmet aussi bien la passion du Japon que peut l'être un film japonais. Faut dire qu'à force d'en entendre parler et d'en parler, d'en avoir parlé avec les collègues de Zoom & Co, votre autre émission cinéma et événement cinéma Mille la voix, ben c'est que ça donne envie, ça m'a bien donné envie. Si d'ici le mois prochain je viens à l'avoir vu, je ne manquerai pas de vous en parler. Et ça me fait penser que je devais aussi vous parler du film Gran Turismo. Mince! Bon, ben, je vous en parle le mois prochain si tout va bien ou si je me rajoute pas un autre truc. Mais je vais essayer de vous en parler d'ici la fin de la saison. Comme j'espère pouvoir vous parler de Perfect Days ou encore de beaucoup de choses dont je dis que je vais vous parler, mais est-ce que je vais y arriver? Enfin, bref. D'ici là, une chose est sûre, c'est que cet épisode de Showtime touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, ça me fait toujours autant plaisir de venir vous parler cinéma et pop culture sur les ondes de Radio Larzac. Eh, cette fois, 6 pages d'émission, mais j'ai réussi à bien remplir l'émission avec quelques sons sympas sans vous en passer un de 9 minutes. Vive moi, non ? En tout cas, je vous souhaite encore une fois une bonne année. J'espère qu'elle sera propice à l'avancée de nombre de projets, hein. Si je pouvais professionnaliser la radio, ça serait cool, n'empêche. Et du coup, justement, si vous voulez aider en ce rêve, hein, vous pouvez justement m'écrire pour me dire ce que vous avez pensé de l'émission et ce que vous aimeriez pouvoir écouter pour la suite. Pour cela, vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux, chat-du-8-fouineur, ou m'écrire à l'adresse suivante, showtime.radiolarzac@gmail.com ou oneroi.studio au pluriel, oneroi.studio au pluriel, @outlook.com. Vous pouvez écrire également à contact@radiolarzac.org. J'espère que l'année cinématographique et pop culture qui nous attend sera encore riche. Et pour cela, pour pouvoir encore bien vous en parler, justement, je tiens surtout à vous remercier, vous, auditeurs, pour m'avoir écouté. Et surtout, merci à Radio Larzac pour continuer à me diffuser. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc au mois prochain.